Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxième et quatrième dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888.
Pour cette dernière chronique westernosophique avant la trêve estivale, je voudrais analyser quelques éléments de réflexion proposés par Gilles Deleuze concernant le passage d'un cinéma classique qui serait caractérisé par l'image-mouvement ou l'image-action, pour reprendre les terminologies de Deleuze, à un cinéma moderne qui serait caractérisé justement par une crise de l'image-action et par l'émergence de l'image-temps. Dans ce passage, décrit par Deleuze et selon Deleuze lui-même, le néo-western jouerait un rôle non négligeable, notamment à travers la personnalité de Sam Peckinpah, réalisateur Sam Peckinpah. Et donc je voudrais, dans cette chronique westernosophique, proposer un regard westernosophique inspiré de Deleuze sur un de ses films, La Horde Sauvage, film de 1969. Mais avant de parler de La Horde Sauvage, peut-être un rapide rappel théorique sur les concepts de Gilles Deleuze sur le cinéma. Donc, Deleuze propose une réflexion sur le cinéma qu'il qualifie de classique et sur ses différentes mises en crise. Mises en crise qui seraient relatives au néoréalisme italien, à la nouvelle vague française, etc. Le cinéma classique, selon lui, se caractérise par un montage orienté vers une action claire qui s'inscrit clairement dans un milieu, dans une situation. Donc, la structure classique du cinéma, pour Deleuze, c'est SAS, c'est-à-dire situation, action et situation restaurée. SAS. C'est ce qu'il appelle la grande forme. Et selon lui, cette conception du cinéma est solidaire d'une conception de l'histoire au sens large. Conception de l'histoire qui suppose l'unité du peuple, donc une vision homogène du peuple, et puis qui suppose l'historicisme. L'historicisme au sens où l'histoire aurait un sens, où l'histoire serait orientée, où l'histoire aurait une signification, où les différents événements qui composent l'histoire humaine auraient une logique et tendraient vers un but. Donc la crise du cinéma classique hollywoodien serait relative à la crise d'une certaine conception de l'histoire et donc aussi à une crise du rêve américain, puisque le rêve américain est sous-tendu par cette vision historiciste de l'histoire, par cette vision téléologique orientée vers un but. Le cinéma moderne, en fait, serait caractérisé par une disjonction entre la narration et l'image, entre l'image et la narration, et par son accent mis sur ce que Deleuze appelle les mouvements aberrants, qui sont propres, en fait, à tout film. Disproportion des échelles, faux raccords, dissipation des centres, tous les éléments qui font, en fait, que la perception cinématographique est totalement différente de la perception du monde par un sujet percevant. Le cinéma moderne, pour Deleuze, c'est aussi l'émergence d'espaces quelconques et de personnages démotivés, de personnages qui seraient davantage des spectateurs que des acteurs de ce qui leur arrive. Dans le néo-réalisme italien, par exemple, explique Deleuze, même quand les personnages semblent s'agiter, on ne peut pas dire qu'ils agissent vraiment, car ils n'ont plus une prise effective sur le monde qui les entoure. Alors, dans le cinéma 1 de Deleuze, l'image-mouvement, donc le premier tome de ces deux livres sur le cinéma, précisément au chapitre 10, Deleuze se réfère à ce qu'il appelle le néo-western et notamment donc à Sam Peckinpah. Le néo-western, écrit Deleuze, serait caractérisé non pas par la grande forme, SAS, situation, action, situation restaurée, mais par ce qu'il appelle la petite forme, c'est-à-dire ASA. Autrement dit, ça serait l'action qui serait première et ce serait l'action qui révélerait la situation, qui la dévoilerait. Mais ce dévoilement serait en fait relatif. Dans le néo-western, explique Deleuze, c'est l'ellipse qui domine, hein, c'est l'instabilité. On est ici dans quelque chose qui relève de la perte de repère. Et La Horde Sauvage, justement, le film de Peckinpah, évoque effectivement plusieurs des aspects des analyses de Deleuze. Tout d'abord, la dissolution du groupe fondamental. Le groupe fondamental, dans le western et dans le cinéma américain classique en général, c'est le symbole de l'unité du peuple. Or ici, dans La Horde Sauvage, on a affaire à des groupes de rencontres hétéroclites, mouvants, à des alliances changeantes. Et à cet égard, on n'a plus comme ça un groupe référent qui symboliserait le peuple. Autre aspect marquant dans La Horde Sauvage, c'est le sentiment de non-sens. C'est le sentiment d'absurdité, d'inversion des valeurs. Troisième élément, c'est le rôle central des losers. Mais je reviens dans cette notion d'inversion des valeurs. Dès le début du film, les enfants vont jouer un rôle tout à fait particulier dans La Horde Sauvage, puisqu'on voit un groupe d'enfants qui sacrifie un scorpion en le faisant dévorer par des fourmis. Et avant de lui mettre le feu d'ailleurs. Et là, il y a un très gros plan sur le scorpion qui brûle, qui devient flou d'ailleurs. Et ce trouble de la perception, c'est aussi un trouble du sens, parce qu'on voit combien ces enfants jubilent à cette scène extrêmement cruelle. Et on voit aussi d'ailleurs comment juste après, il se régale à observer la tuerie qui a lieu dans la petite ville de l'Ouest. Il la rejoue d'ailleurs, hein, il rejoue la tuerie. Et un vieux Mexicain, à un moment, à peu près à la 41e minute du film, dit d'ailleurs « Nous rêvons tous de redevenir des enfants, même les pires d'entre nous, surtout les pires d'entre nous. » Fin de citation. Donc il y a ici cette idée d'une évidente, hein, mais d'une perte de l'innocence. Hein, c'est vraiment un cinéma qui est un cinéma de la perte de l'innocence, le cinéma de Peckinpah. La brutalité des gestes répond à la brutalité aussi des changements de ton. D'ailleurs, hein, lors de la scène de l'assassinat de Teresa, il y a un mouvement de panique générale. Et puis, ce mouvement de panique se transforme en fou rire. Donc finalement, le rire déjoue la violence. Et puis, Teresa apparaît comme une victime sacrifiée qui ne sera jamais vengée, ni même vraiment pleurer.
Les coquilles.
Garde-la en train de lécher l'oreille du général.
Et pas. Bouda. Non.
Rupture de rythme aussi, hein. Il y a des moments dans La Horde Sauvage où la violence se déchaîne, sans trop qu'on sache toujours pourquoi. Et puis il y a de longues scènes élégiaques comme ça qui étirent le temps. Et donc le spectateur est pris comme ça dans un rythme tout à fait étonnant et tout à fait en rupture. Figure de l'absurdité aussi à travers l'image de la mitraillette. C'est d'ailleurs une scène qui m'avait beaucoup marqué quand j'avais vu le film quand j'étais enfant. Puisque souvent les westerns, on les voit enfant et puis on les revoit plus tard pour préparer des chroniques westernosophiques. La mitraillette, c'est un peu l'équivalent de la caméra, d'une certaine manière. Hein. On sait d'ailleurs que to shoot, en anglais et en américain, ça veut dire à la fois filmer et tirer, hein, tirer avec une arme. Et la mitraillette, dans le film, elle se déclenche toute seule à un moment et elle tue indifféremment les uns et les autres, un petit peu comme la caméra de Peckinpah filme indifféremment les scènes de violence et les scènes bucoliques. Et donc il y a comme ça une mécanisation de la violence qui relève aussi d'une perte de sens. Mécanisation de la violence d'ailleurs qui apparaît aussi dans le film avec l'apparition d'une voiture automobile. Alors là, on est quand même aussi dans la fin d'un monde. Une voiture à moteur qui apparaît dans un western, d'autant plus qu'elle va servir à un moment à torturer un des personnages en le traînant comme on traînait auparavant les hommes punis avec des chevaux.
Bon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça?
J'en ai vu une toute pareille à Waco.
Qui marchait à la vapeur?
Non, à l'alcool ou à l'essence.
Eh ben, tu sais ce que j'ai entendu dire? On raconte que dans le Nord, ils ont une de ces machines qui peut voler.
Et il s'agissait d'un ballon et de rien d'autre, espèce de vieil abruti.
Non, le grand-père a raison. Ils ont des moteurs et aussi des ailes. Ils font 100 km en moins d'une heure. Ils disent aussi que ça servira pour la guerre. Bon, et bien maintenant, allons causer avec ce général. On va lui causer de sa voiture et des chevaux qu'on a en trop. Une gentille discussion.
À la fin, d'ailleurs, dans la tuerie générale, on ne sait plus vraiment qui tire sur qui. Peckinpah se régale de ralenti, d'explosion comme ça, d'hémoglobine, avec une esthétisation très forte de la violence qui avait d'ailleurs déclenché une polémique lors de la sortie du film. Et la tuerie générale laisse très très peu de survivants. Et ce qui est intéressant aussi à la fin du film, c'est que le personnage de Deck, qui est joué par Robert Ryan, lui, il a survécu. Et puis, il est assis, il est mélancolique, il est dubitatif. On ne sait pas trop comment interpréter son regard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne manifeste aucun triomphalisme, aucun triomphe. Et c'est plutôt presque comme s'il regrettait d'être vivant, en fait. Comme s'il regrettait d'avoir gagné, avec là aussi donc une inversion des valeurs. Certes, il sort vivant, certes, il sort victorieux, mais on sent que peut-être son cœur aurait été du côté des perdants. Et là aussi, donc, ça participe à la perte de repères. Et dans Deleuze, donc, dans Cinéma 1, à la page 230, dans l'image mouvement, il écrit justement sur ce personnage du loser chez Peckinpah, hein, sur cette idée que Peckinpah aime les perdants, aime les losers. Et donc, je cite Deleuze. Deleuze écrit « Ils n'ont plus aucune façade. Il ne leur reste plus une illusion. Aussi représente-t-il l'aventure désintéressée, celle dont on ne tire aucun profit, sinon la pure satisfaction de vivre encore. » Fin de citation. Donc, après la pause estivale, donc, je reviendrai avec de nouvelles chroniques westernosophiques, certaines étant consacrées justement à des westerns relevant de cette crise de l'image-action que Deleuze décrit, notamment des westerns de Monty Hellman ou d'autres westerns de Peckinpah. Et puis, je m'attarderai aussi sur des films périphériques par rapport au genre western, des films dont on peut se demander s'ils sont ou non des westerns, puisque finalement la notion de western, est une notion qui intéresse la philosophie, c'est aussi parce que justement c'est une notion dont les frontières n'ont rien d'évident.
Le monde se divise en deux catégories, ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888. Et sur www.radiogrenouille.com.